1987 dans la catégorie révélation féminine de l'année. Donc vous soyez sur la planète. Merci d'avoir écouté ce journal. À suivre sur Radio
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
En période de canicule, protégez-vous en adoptant les bons réflexes. Buvez de l'eau régulièrement, restez au frais. Et si vous voyez une personne victime de malaise, de forte fièvre ou qui tient des propos incohérents, appelez immédiatement le 15.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
On est avec Marie. Bonsoir Marie, très rapidement.
Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir tout le monde.
Tu reçois quelqu'un qui va nous parler de quelque chose.
Oui, c'est ça. Je reçois ce soir Élise Gaillard, médiatrice culturelle et référente des supports de médiation.
Très bien. Et moi, je recevrai tout à l'heure, en présence en face de moi, Cécile et Amandine pour parler de Temporive. Voilà, tout simplement, ce sera le sujet d'actualité, le sujet chaud de l'été. Et puis en troisième partie d'émission aussi, on aura Quasimodo qui a sorti un livre. Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
On suppose qu'il va nous dire qu'il fait chaud en ce moment, mais on écoute quand même les actus locales avec Colin.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire sur Radio G.
Et on commence effectivement avec la canicule qui continue de toucher le Maine-et-Loire. Face aux fortes chaleurs et aux températures records attendues ces prochains jours, la ville d'Angers a décidé de fermer des écoles publiques ce lundi après-midi ainsi que mardi après-midi. Les établissements restent ouverts le matin et les enfants inscrits à la cantine peuvent déjeuner sur place. Pour les familles qui n'ont pas d'autre solution de garde, un accueil périscolaire est également maintenu l'après-midi dans chaque école. Cette mesure exceptionnelle a été prise alors que le département est placé en vigilance rouge canicule depuis dimanche et que le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés. La municipalité appelle également les habitants à la prudence, notamment les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes les plus fragiles. On poursuit avec la fête de la musique qui s'est tenue ce dimanche 21 juin à Angers, malgré ses conditions météorologiques particulièrement difficiles. Malgré la canicule, la ville a tout de même vu des milliers de personnes déambuler dans les rues du centre-ville pour profiter des nombreuses animations musicales proposées aux quatre coins d'Angers. Si certains groupes et chorales ont dû composer avec des températures dépassant encore les 30 degrés en soirée, les Angevins ont répondu présents. Fanfares, chorales, concerts étudiants ou encore musique techno ont rythmé cette édition 2026, notamment sur les places du ralliement, du pilori ou dans le quartier Saint-Serge. Pour faire face à la chaleur, plusieurs dispositifs avaient été mis en place, avec notamment des points d'eau en libre accès et une interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. La fête s'est donc déroulée dans une ambiance festive et conviviale jusqu'au bout de la soirée.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci Colin, merci beaucoup pour ce point sur les actus locales angevines. On accueille maintenant notre premier invité de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et j'ai donc proposé à Marie d'interviewer cette personne car on va parler de dessin. Et Marie, la preuve en est, elle a même dessiné sur sa feuille. Marie, je te laisse accueillir notre invité.
Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes avec Élise Gaillard, médiatrice culturelle et référente des supports de médiation. Donc bonsoir Élise.
Bonsoir.
Alors vous venez nous parler d'une exposition un peu particulière, collectionnée le 18e siècle, Angers invite les dessins du Louvre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'exposition et en quoi elle consiste ?
Oui, donc c'est une exposition qui résulte d'un partenariat avec le musée du Louvre et plus précisément avec le département des arts graphiques. Et l'idée, c'est de faire dialoguer nos collections permanentes du musée des Beaux-Arts avec une partie de ces dessins du musée du Louvre. Il se trouve qu'à Angers, il y avait un collectionneur au XVIIIe siècle, Éveillard de Livoy, qui partageait les mêmes goûts qu'un autre amateur d'art qui lui était parisien, qui s'appelait le comte de Saint-Maurice. L'un collectionnait essentiellement des dessins, l'autre essentiellement des peintures, et tous les deux, sans se connaître, partageaient les mêmes goûts. Donc l'idée de cette exposition, c'est de faire dialoguer d'un côté les peintures du Musée des Beaux-Arts avec de l'autre les dessins du Musée du Louvre, autour de thématiques différentes, mais qui mettent à l'honneur des artistes du XVIIIe siècle.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire cette collaboration avec le Louvre ? Pourquoi spécifiquement le XVIIIe siècle ? Est-ce qu'il y a une raison derrière ?
Le XVIIIe siècle, c'est vraiment le fleuron du musée des Beaux-Arts d'Angers. Chaque musée a un petit peu sa spécialité. À Angers, c'est une très belle collection avec des chefs-d'œuvre de grands noms comme Fragonard, Chardin. Et il se trouve que le comte de Saint-Maurice, lui, collectionnait des dessins de toutes les périodes, de toutes les écoles, mais également le XVIIIe siècle français. Donc, comme il y avait ce point commun entre les deux amateurs d'art, le parisien et le langevin, c'est cet axe qui a été choisi.
Oui, c'est ça, vous avez décidé de faire du coup une collaboration. Il y aura du coup forcément des dessins, mais est-ce qu'on peut voir autre chose durant cette exposition ? Est-ce qu'il y a autre chose qui est prévu ou pas ?
Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle un dessin ? C'est un dessin comme on l'imagine, moi par exemple, je ne suis pas du tout initié, c'est un dessin ? Point.
Ce qui caractérise ce qu'on appelle nous les arts graphiques, c'est le support, c'est-à-dire que c'est sur papier. Donc le dessin, il peut être réalisé avec des techniques différentes. Ça peut être à l'encre, par exemple. Ça peut être du pastel, ça peut être de la sanguine, de la pierre noire. Mais une gouache sur papier est aussi considérée comme de l'art graphique. Là, on a essentiellement en fait des feuilles dessinées à la sanguine, pierre noire et encre en grande majorité.
Oui, donc en fait, on aura quand même des œuvres. Parce que dessin, c'est vrai que spontanément, je pense à du dessin d'enfant, mais là, non, c'est vrai. C'est juste le support, hein, c'est important de le préciser, Elise.
Oui, oui, et puis après, le dessin peut avoir plusieurs fonctions pour un artiste. Ça peut être un travail d'exercice. Et on a notamment ce qui s'appelle des académies. Des académies, en fait, c'est des dessins qui représentent des hommes qui posent nus. Parce que c'est un exercice incontournable dans la formation d'un artiste de savoir représenter l'anatomie. Et avant de dessiner ou de peindre un homme ou une femme habillée, il faut savoir le représenter nu. Donc voilà, il y a des dessins qui vont avoir la fonction d'exercice, il y a d'autres qui sont préparatoires à la réalisation d'une peinture. Et en fait, au XVIIIe siècle, il y a aussi un changement qui s'opère, puisqu'il y a un véritable marché de l'art du dessin qui se met en place. Et donc les artistes comprennent qu'il y a quelque chose à en tirer, et donc certains vont réaliser des dessins destinés directement aux amateurs, pour le marché de l'art. C'est pas un travail préparatoire, c'est pas un exercice, c'est des feuilles pleinement abouties.
Je me permets une petite remarque historio-socio-économique. 18e, du coup, on est au siècle des Lumières. Donc, on sait aussi qu'il y a la classe bourgeoise émergente. Est-ce que ça justifie justement le fait qu'il y ait des nouveaux clients qui a permis cette prolifération de dessins?
Oui, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Il y a donc les amateurs d'art de plus en plus nombreux et qui s'intéressent justement à ces feuilles, qui ont aussi l'avantage, pour certains en tout cas, d'être moins chers qu'une peinture de chevalet. Et puis, il y a des marchands qui vont se spécialiser. Ce qui va avec, c'est que les prix vont augmenter. Donc, si au départ, en fait, on pouvait y avoir des choses peut-être abordables, on va avoir des feuilles qui vont se vendre aussi chères que des peintures par la suite.
Et vous nous avez parlé justement des dessins académiques et préparatoires, si je ne me trompe pas. Est-ce que pour vous, il y a un dessin en particulier qu'il faut vraiment qu'on aille voir ? Est-ce que pour vous, vous avez aussi votre préféré ?
En fait, dans les dessins du Louvre, on a vraiment un certain nombre de chefs-d'œuvre, mais peut-être les pièces exceptionnelles, à mes yeux, c'est celle de Watteau. Antoine Watteau, qui est un peintre, mais qui était un dessinateur extrêmement prolifique et qui travaillait très souvent à ce qu'on appelle les trois crayons, c'est-à-dire qu'il associe dans son dessin la sanguine, la pierre noire et la craie blanche. C'est vraiment des dessins qui sont soit pris sur le vif, soit il faisait poser ses modèles, mais il y a énormément de naturel et de spontanéité dans ses feuilles. Et peut-être pour compléter, c'est vrai que là je vous ai parlé du partenariat avec le musée du Louvre, mais la dernière partie de l'exposition présente des dessins du XVIIIe siècle qui appartiennent au musée d'Angers, et parmi lesquels il y a un très beau dessin de Fragonard qui fait partie de nos collections.
Mais je vois que vous y connaissez pas mal. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous êtes amatrice de dessins justement?
Amatrice, mais je ne pratique pas du tout.
Et toi, Marie, qui est amatrice de dessin, pour le coup, est-ce que c'est des termes que tu connais, sanguine, craie, il y en avait un
craie
autre.
Blanche.
Craie blanche.
Craie noire.
Eh ben, j'en ai entendu parler, mais je ne saurais pas exactement, les décrire ou quoi que ce soit. Je connais les termes, mais je suis pas non plus une pro, on va dire.
Bah, dans ce cadre-là, justement, on a voulu inviter les gens à venir dessiner dans l'exposition. Donc, on a mis en place une programmation. Mais de toute façon, même si vous visitez comme ça aujourd'hui ou demain, quand vous le souhaitez, il y a un espace de médiation où tout à chacun peut s'installer pour dessiner. Il y a ce qu'on appelle, nous, des tables lumineuses. Donc, l'idée, c'est de décomplexer le dessin et de s'installer en prenant des calques et de voilà, reproduire des personnages, des arbres qui sont issus des œuvres des grands maîtres qui nous entourent. Et puis, il y a aussi des chevalets pour ceux qui souhaitent s'installer et travailler à la verticale. Ça, c'est en autonomie, de façon permanente. Mais dans notre programmation, on a mis aussi des rendez-vous. Un rendez-vous tous les jeudis après-midi à partir de début juillet, où il y aura une visite gratuite avec le billet d'entrée d'une petite demi-heure. Et ensuite, les visiteurs pourront s'installer dans cet espace d'atelier. Et là, on mettra à disposition du matériel qualitatif. Et donc, des feuilles de papier de grand format. Et aussi ce qu'on appelle les carrés comptés. Les carrés comptés, c'est justement la sanguine, la pierre noire, la craie blanche. Et ça, c'est grâce à un mécénat de notre partenaire d'Albe. Et puis, si on va aller plus loin, il y a donc des ateliers qui seront animés par une artiste plasticienne sur des thématiques données.
Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet du Musée des Beaux-Arts et de la ville d'Angers au sens large. Il y a des onglets partout, des renvois de liens dans tous les sens. On ne peut pas louper cette information-là. Merci Marie pour tes questions. Merci Élise pour tes réponses. Du coup, puis on a déjà hâte. L'argument climatisant, oui, mais aussi parce que voilà, c'est toujours c'est important d'aller dans les musées, de profiter, de déambuler, de prendre son temps, des choses qu'on ne fait plus, de lâcher son téléphone et puis de déambuler dans les musées, notamment le musée des Beaux-Arts à Angers. Merci beaucoup. On va continuer avec ce que propose culturellement la ville d'Angers. On va passer à Temporive dans quelques instants, mais avant tout ça, un petit peu de gaming, la dernière de la saison, avec toi Mathieu.
Let's Game, la chronique gaming de Topette. Avec Mathieu.
Et bien voilà, ça y est, comme tu l'as dit, Pierre-Benoît, la dernière intervention de cette émission. Franchement, ça fait quand même un petit quelque chose. Un peu comme si on termine un jeu qu'on adore, on regarde les crédits défiler et on se dit, déjà. Alors, avant de rendre le micro, je voulais vous parler une dernière fois de prévention, justement, autour des jeux vidéo. Parce qu'on entend souvent, et trop souvent même, attention, les écrans, c'est pas bien. Bon, comme souvent, la vérité est bien plus nuancée. Le problème, c'est pas le jeu vidéo. C'est quand on oublie qu'il existe un monde merveilleux au-delà de la manette. Oui, oui, et ce qui paraît, il y a des gens, du soleil, et parfois même des légumes. Surtout en ce moment. L'idée, c'est surtout de garder un équilibre. Parce qu'une petite partie de 5 minutes qui finit à 2 heures du mat, on connaît tous. Et si dans les jeux, on a plusieurs vies, dans la vraie vie, il vaut mieux en prendre soin car on n'en a qu'une seule. Dormir, bouger, voir les copains, manger autre chose que des chips, ça fait partie des quêtes principales. Puisqu'on parle de rencontres et de partage, j'en profite pour vous donner rendez-vous le 10 octobre prochain à Cantenay-Épinard pour le Prestival. C'est d'ailleurs assez drôle puisque... C'est parce que si je suis là derrière ce micro, c'est un peu à cause ou grâce à ce festival. Je suis venu ici il y a un an pour présenter cet événement et finalement, entre deux discussions, Pierre-Benoît a dû se dire qu'il fallait me garder un peu plus longtemps. Résultat, une année de chronique plus tard, me voilà en train de dire au revoir. Comme quoi au départ, je venais pour parler d'un festival et je suis reparti avec une saison complète à la radio.
Pour reparler du festival à la fin.
Exactement, la boucle est bouclée. Le Prestival, justement, lui, revient donc le 10 octobre. Toujours la même envie, parler de prévention sans être moralisateur, avec des animations, des rencontres et de la convivialité. Bref, un festival sérieux qui se prend pas la tête. Je suis désolé, mais je peux pas terminer cette chronique sans avoir une pensée pour celui qui est aux commandes de cette émission, quand même. Oui, je parle de toi, Pierre Benoît. Merci pour ton accueil, ta bonne humeur, ta capacité exceptionnelle à faire des jeux de mots. Parfois tellement attendu qu'on se demande s'il fallait en rire ou demander un arbitrage de la VAR. Mais finalement, c'est ça la marque de fabrique de l'émission. Tu m'as accompagné, t'as donné la parole aux acteurs locaux encore aujourd'hui.
sur des sujets tantôt tristes, tantôt d'actualité, tantôt humoristes. Et j'ai découvert la richesse du territoire local angevin. T'as créé du lien et mine de rien, ça compte énormément. Donc, merci pour tout ça. Et puis, je vais me permettre d'en faire une moi aussi, hein, parce que bébé qui roule ne masse pas mousse, j'ai envie de dire.
Pierre qui roule ne masse pas mousse, Pierre Benoît qui roule.
Ouais. Mais comme je connais ton amour sur le monde, t'aurais trouvé sûrement mieux, voire peut-être pire.
J'aurais pu faire d'une Pierre Benoît, mais...
En tout cas, cette émission, c'est un peu comme une partie entre copains, hein, entre les moments de sérieux, les moments de rire, hein, quelques bugs parfois, mais surtout beaucoup de bons souvenirs. Alors merci à vous de nous écouter fidèlement ou de temps en temps dans votre voiture, quand vous cuisinez ou encore entre amis. Le générique va bientôt partir, mon micro va se couper et je crois qu'il y aura forcément une petite pointe de nostalgie. Mais comme dans tous les bons jeux, c'est pas vraiment un game over, c'est plutôt un à suivre. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et souvenez-vous, dans la vie comme dans le jeu vidéo, ce qui compte le plus, c'est pas d'aller le plus vite, c'est de profiter de la partie et des gens avec qui on joue. Merci Pierre Benoît, merci à toute l'équipe, merci à vous et à bientôt, quelque part, dans une autre aventure.
Merci beaucoup Mathieu, et puis merci à toi aussi pour cet engagement sur toute la saison avec ces chroniques très intéressantes, parfois même souvent poétiques. Je pense qu'il y avait une autre branche à explorer avec toi finalement, on aurait pu faire des chroniques un petit peu plus lyriques, même littéraires. En tout cas, ça a été un plaisir, et puis le Prestival, surtout, notez le rendez-vous, je te laisse le redonner, la date.
Le 10 octobre, dans l'après-midi, de 14h à 19h, dans la salle du Ronceret à Cantenay-Épinard.
Voilà, toutes les infos pratiques sont données. Il y a le compte Insta, Facebook peut-être pour retrouver les infos.
L'adresse mail plutôt.
L'adresse mail.
assoletsgame@gmail.com.
Et le micro de Radio G te sera toujours ouvert. Bon vent, bonne aventure et puis c'est pas un game over, effectivement. Nous on continue dans la deuxième partie de notre sujet de la soirée.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
C'est l'avant-dernière, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On essaie de prendre le temps pour tout le monde. On était avec Élise Gaillard il y a quelques instants pour parler de l'exposition sur les dessins du XVIIIe siècle en partenariat avec le Musée du Louvre, avec les Musées des Beaux-Arts à Angers. Maintenant, on parle de Temporive et on retrouve, je lui donne la parole tout de suite, Cécile, si tu es d'accord. Bonsoir Amandine.
Bonsoir.
Une voix qu'on connaît bien, je crois même qu'elle a fait 2-3 jingles ici sur Radio G. Amandine qui est en stage donc avec... Cécile, bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Une voix qu'on connaît bien aussi, puisque ça fait quoi, tous les ans quasiment?
C'est la quatrième.
C'est la quatrième, voilà, quatrième sur cinq, t'as quasiment tout rempli. T'as ta petite carte avec les tampons aussi. Alors tu vas nous parler de Temporive avec Amandine, bien évidemment. Alors là, par contre, je ne sais pas, c'est la 22e, 15e, 17e, 6e, je ne sais pas.
16e,
ouais. 16e édition. Rendez-vous incontournable de l'été à Angers. Alors ça a été Tempo de Rive, Tempo Rive, un coup délocalisé, ça change, ça évolue, le format évolue tout le temps, donc je suis bien curieux d'en apprendre un peu plus ce soir sur quels seront les contours de ce format de l'édition 2026. Qui s'y lance pour nous expliquer tout ça? Peut-être Amandine? Elle a l'aval de Cécile.
Et cette année ce sera encore au Jardin des Beaux-Arts, à partir du jeudi 16 juillet. Et là, les dates sont un peu différentes cette année. Donc, ça commence un jeudi. Ensuite, ce sera les 22, 23, 29 et 30 juillet. Puis les 5, 6 et 7 août. Ça finit au Jardin des Beaux-Arts un vendredi. Et il y a toujours les cafés Tempo qui se poursuivent en même temps, les mardis et samedis, sur plusieurs terrasses de cafés du centre-ville. Et cette année, il y aura le Kent, ensuite les Alcœur de Maine, Biltoki, et la Descente de la Marine pour les deux dernières dates. Donc, ça se terminera le 8 août. Les cafés Tempo. Est-ce qu'il y a d'autres infos encore
D'un stage, elle a pris ton emploi, je crois. C'est la vie qui est à place. Non, il y a bien des infos, des infos complémentaires. Oui. On est sur un format assez similaire. C'est que ça a bien marché, ça veut dire, les éditions précédentes sur ce format-là?
Voilà, l'idée, c'est de toujours proposer des soirées estivales musicales, de musique actuelle. Et donc, on a toujours le même programmateur. C'est la 16e édition avec Didier Granet. Et donc, c'est quand même le fil rouge de ce festival et ce qui fait qu'on peut y venir les yeux fermés, même sans connaître la prog. Voilà, on a toujours le même objectif, passer une bonne soirée estivale sous les arbres. Voilà, vu la chaleur aujourd'hui, on ne sait pas ce qui nous attend pour le mois de juillet. On est un petit peu peur, mais l'idée d'être dans ce jardin, c'est justement de pouvoir profiter des soirées d'été en espérant que ça redescende un petit peu à ce moment-là. Les Cafés Tempo, on avait commencé l'année dernière et c'est une deuxième édition parce qu'en fait, c'est vraiment une proposition complémentaire. Ça nous permet d'être dans les terrasses des cafés des centres-villes et donc ça touche un autre public, c'est en plus intime et on a des artistes qui chantent en solo, duo ou trio dans voilà des plus petits groupes ça voilà, c'est aussi un moment sympa et donc ça nous permet surtout de faire une proposition musicale du mardi au samedi à Angers puisque en plus de Tempo Rive, il y a Destination Angers qui propose des soirées dégustation avec aussi petite orchestre ou concert et donc c'est le vendredi soir. Donc tous ensemble, ça permet d'avoir une proposition musicale du mardi au samedi tout l'été à Angers.
Et puis c'est un rendez-vous qui est construit, qui est bien ficelé. Tu parlais du programmateur Cécile. Oui. C'est aussi, c'est important de le rappeler, on est sur quelque chose de très qualitatif.
C'est ça, on a de la bonne musique avec deux axes. En première partie, on reçoit des groupes plutôt locaux et en devenir. Donc c'est que Didier, il sent qu'il y a quelque chose là, il a écouté et il se dit ça... faut pas passer à côté. Et puis aussi, on a à Angers de nombreux artistes de qualité. Et donc, en lien avec le Shabada et les lieux de musique, on programme aussi ces artistes pour soit une première grande scène avec l'idée voilà de faire leur route ensuite. Et puis, en deuxième partie, on va avoir des groupes... voilà des groupes internationaux donc qui peuvent venir voilà on a c'est là qu'on a des sons d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine avec cette envie de voyager aussi et c'est des groupes qui sont peut-être dans la confidence aujourd'hui mais qui méritent mieux on va dire comme on a le cinéma d'auteur on a ces groupes là et à chaque fois il y a de belles découvertes à faire des très belles voix, des belles personnes. Et c'est le cas pour cette édition.
Amandine, toi, ton stage, il s'arrête quand sur les contours un peu pratiques?
Eh ben, il se termine le 8 août pour après la dernière date au Jardin des Beaux-Arts.
Donc tu suis toutes les dates?
Exactement, je serai là toutes les dates.
Pour organiser?
Oui, oui.
Pas... Attention.
Non, cette année, c'est pour travailler.
Bon, en tout cas, ça fait toujours des émules parmi la population angevine. Est-ce qu'on sait au niveau des publics si on a des habitués, si à chaque fois ce sont de nouvelles personnes, des personnes de passage, est-ce qu'on établit des statistiques ou pas, enfin des statistiques façon de dire.
Alors on l'avait fait il y a 3 ans et on revient un peu sur les mêmes choses. C'est quand même un public très angevin du centre-ville qui vient à Tempo Rive les yeux fermés, comme je le disais tout à l'heure. Et on a eu comme axe de rajeunir ce public, parce que c'est vrai qu'on a un public fidèle depuis 16 ans, qui avait peut-être commencé autour de 30-35, qui a aujourd'hui 45-50. Et donc on essaye de toucher ce public 20-25 qui vient moins de manière naturelle à ce festival-là. Et c'est ce qu'on a fait en travaillant avec Didier, justement, la programmation. Et l'année dernière, le premier groupe qu'on avait programmé a fait venir ce public-là. Et donc, on espère qu'ils vont revenir cette année.
Un événement bien construit, décidément. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de cet événement, que ce soit le l'âme de Tempo Rive ou les infos pratiques, peut-être, Amandine?
Eh bah, il faut retenir que ça commence le 16 juillet, qu'il y a vraiment une programmation qui est très éclectique. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut venir se poser avec son pique-nique dans le jardin et juste découvrir des chouettes groupes que je pense peut-être pas grand monde connaît et en même temps découvrir aussi des artistes locaux. Il y a des chouettes premières parties et les Cafés Tempo aussi pour aller traîner un petit peu les mardis et samedis soirs. Je pense que ça va être un chouette rendez-vous avec les derniers qui sont sur les cales de la Savate aussi. Donc c'est un bon endroit pour conclure le festival, je pense. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir? Il y a des nocturnes au Musée des Beaux-Arts et au Repère Urbain aussi.
Voilà, l'idée, c'est de faire expo et concert. Voilà. Enchaîner les deux. Bah, et tout est gratuit.
Bah, tout est gratuit, ça c'est important de le préciser. Bon, bah, oui, vas-y.
Ça, ouais, c'est... moi j'ai un dernier point important, c'est qu'on jouera quoi qu'il arrive. Tout à l'heure, t'as dit même s'il fait pas beau. Et donc, on a une solution de repli à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Et donc, ça, on l'annoncera 24 heures avant le concert. En cas de nécessité, on ira jouer là-bas. On l'avait déjà fait l'année dernière et le public a bien suivi. Donc on refera la même chose si on a besoin.
Ah oui, c'est ça. Moi je pensais que c'était couvert, mais non, c'est juste la galerie où il y a la scène, je crois, qui
couvre. La scène, elle n'est pas couverte.
Non, voilà. Donc la solution de repli, oui, ça j'avais bien noté. Merci beaucoup Cécile et Amandine de nous avoir présenté Temporive 16e édition, édition 2026. Cécile, on rappelle que tu es chargée de mission action culturelle à la ville d'Angers, enfin au service action culturelle. Puis Amandine en master direction blablabla.
De projet établissement culturel.
Très précisément, voilà. Et tu valides ta deuxième année. Merci beaucoup d'être passé dans Topette ce soir. On termine parce que j'ai oublié d'annoncer tout à l'heure, on reçoit Safa et Malik pour ce nouveau rendez-vous que Malik a proposé. Mais avant tout ça, on entend un auteur.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Le Quasimodo qui est avec nous du coup et qui propose une nouvelle, enfin une version étendue, revisitée peut-être. Et je vois que tu as préparé ton texte pour nous parler de cet ouvrage, donc dis-nous tout.
Alors c'est un roman de fantasy historique où je me permets un peu de modifier l'histoire du cher bossu de Notre-Dame, mais sans le dénaturer. C'est mon tout premier roman. L'histoire en gros, c'est que le bossu va traverser le temps suite à un événement qui se passe au début du roman. Donc, il va passer de l'année 1500 à l'année 1840. Il va rencontrer des personnages historiques très très liés à Victor Hugo, même potentiellement rencontrer Monsieur Victor Hugo. Et pendant tout cet événement-là, tout se passe autour, bien sûr, de la chère maison de Quasimodo, Notre-Dame de Paris. Et on va apprendre des secrets sur d'où vient Quasimodo, quelle est sa réelle origine, pourquoi est-il aussi monstrueux, et tout, pas mal de choses que les gens ne soupçonnent pas. Je précise que c'est un roman, donc je reprécise que c'est un roman de fantasy, donc ce n'est pas historiquement, le passé de Quasimodo, c'est moi qui l'invente. Ce n'est pas du tout tiré du roman, mais tous les personnages que Quasimodo va rencontrer et même lui sont respectés à 99%. Je me prends un tout petit peu de liberté quand même parce que c'est mon roman, donc faut quand même que je me fasse plaisir. C'est un roman qui fait 120 pages et il est très aéré, donc très facile à lire pour n'importe qui. Et il est disponible sur Amazon pour 11 € en relié et 1 € en numérique. Et il s'appelle Quasimodo, le gardien des siècles.
Donc un nouveau support pour explorer ce personnage et cette histoire que tu adores. Oui. Tu avais proposé la série vidéo qui s'est conclue sur YouTube. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité.
Alors, cette série. La web-série est terminée depuis maintenant, ça une doit faire année. Un an et demi environ. La chaîne YouTube est stoppée depuis début janvier, si je ne dis pas de bêtises. Parce que c'est trop de charge mentale. Et
mais elle est toujours, elle est, c'est toujours oui, en ligne.
Elle est, toujours en ligne. On peut toujours aller voir tous les playbacks que j'ai fait, que ça soit au château d'Angers, demain à la cathédrale d'Angers, etc. On peut retrouver la web série sur YouTube. Là, donc, il y a le roman qui se ramène et je m'amuse un peu au fur et à mesure du temps à agrandir l'univers de mon Quasimodo, qui est un mélange de tous les Quasimodo qui ont existé, donc de celui de 1923 jusqu'à celui de 98, pardon, qui est le meilleur parce que c'était Garou à l'époque quand il était gentil.
Et celui de 2026, du coup, le tien.
Ouais, mais non, parce que 2026, il y a toujours encore il y a encore l'opéra populaire qui continue encore à tourner et qui n'est pas prêt de s'arrêter parce que Luc et Richard sont au taquet. Et il y a l'Italie qui est en cours, Notre-Dame de Paris Italia qui est en cours de concert en Italie. Et le show Notre-Dame de Paris part en Pologne et encore à l'étranger dans quelques semaines, je crois. Donc, moi, c'est juste un petit bonus où je m'amuse et c'est le début d'une saga. C'est le premier tome d'une saga, donc je vais m'améliorer petit à petit au fur et à mesure des retours des gens. Parce que, voilà, je ne suis pas auteur à la base, je me lance dans ce projet-là parce que c'est un pur kiff et je m'amuse. Et l'histoire est très... Voilà, je me suis bien amusé.
Bon, et bah découvrir, du coup, à commander en ligne, en version numérique, 1 euro et des poussières.
1 euro en numérique et 11 euros en relié. Je préfère le relié parce que déjà, c'est le physique. Je me suis pas embêté à faire une couverture un peu stylée pour rien.
Oui, il semble accessible, hein, visuellement. Il est pas, c'est pas un gros pavé. On peut lire dedans. On a presque l'impression que c'est une encyclopédie. Voilà. Des choses à rajouter ou pas, Quasimodo? Sur cet ouvrage.
À part que voilà, c'est un tout premier, je me fais kiffer avec des personnages et l'intérêt des prochains tomes seront encore dans d'autres périodes vu qu'il devient immortel. Donc Quasimodo ira, je spoil pas, mais il y a encore pas mal d'années de prévues. Il y a pas mal de personnalités très connues historiques qui sont prévues dans les prochains tomes et toujours un passé très très mystérieux pour notre cher bossu. Et qui va choquer beaucoup de gens. Personne ne peut s'attendre à que j'aille dans ce domaine-là.
On va arrêter parce que sinon tu vas finir par nous dévoiler l'histoire. En tout cas, une franchise inépuisable et on a hâte de découvrir les prochains ouvrages et les prochaines méandres de cette histoire. Merci beaucoup d'être passé dans Topette.
Merci
ce soir.
Toi.
À bientôt. On continue et on termine avec Safa et Malik.
Topette avec Pierre Benoît.
Et on continue ce soir dans Topette avec un invité qu'on a toujours grand plaisir à accueillir. Il connaît tellement bien le studio qu'il s'assit de lui-même au micro qui porte les couleurs presque les mêmes couleurs qu'un pays qu'il affectionne tout particulièrement, le Sénégal. Vous avez peut-être connu Malik. Bonsoir Malik.
Salut Pierre Benoît. Comment ça va?
J'allais te poser la question. Ça va très bien. L'été arrive, donc on est très heureux, même si la chaleur était déjà là depuis quelques temps. Ce soir, tu nous parles pas du slam poésie, quoique tu peux quand même en parler, faire peut-être un bilan.
Je pourrais redonner la date, éventuellement.
La date éventuelle, ou alors faire un bilan de cette première saison, je crois. Mmh. C'est la première saison. Tu es venu pour nous parler d'un nouveau concept, décidément les idées ne manquent pas chez toi, des concepts créatifs, culturels, qui donnent aussi la parole aux personnes, hein. Ça reste quand même ton credo, mine de rien, dans tous les événements que tu proposes, puisque là, tu fais parler les gens, ou tu fais parler les gens qui parlent, c'est ça, les gens qui parlent et qui écrivent.
Ouais, t'as raison, il y a toujours un peu des gens qui parlent dans mes événements, hein. C'est toujours le même principe, donc du coup, comme ils parlent, j'ai nommé l'événement simplement les gens qui parlent.
Voilà.
Et qui écrivent. Retour à l'essentiel, on comprend tout de suite. Donc en effet, c'est un événement que j'ai envie de faire tous les deux mois, enfin, qui aura lieu tous les deux mois d'ailleurs. Et la première sera à Trélazé, donc je peux donner la date peut-être.
Ah bah bien sûr, oui.
Dimanche 5 juillet 2026 à Trélazé, salle Ginette Leroux, à 15h dans l'après-midi. Et le principe, c'est d'accueillir un auteur, donc avec son livre. Et ce qui m'intéresse à travers ce livre et à travers cet auteur, c'est de raconter une histoire. Alors, peu importe l'histoire, ça peut être complètement différent en fonction des invités, mais voilà, raconter une histoire, avoir un visage, avoir un regard, et voilà, raconter quelque chose qui nous unisse, qui nous rassemble. Et voilà, ça c'est important pour moi, donc cet événement-là, il servira à ça, et voilà, d'ailleurs je t'invite, hein, si tu veux venir avec tes micros, tes casques là.
Oui, puis je vais regarder ce que je fais le 5 juillet, mais ce serait, oui, avec grand plaisir, surtout que j'ai bien envie de découvrir l'autrice, la première autrice qui va inaugurer tout ça. Alors on a la chance de l'avoir avec nous ce soir, on va lui laisser la parole. Bonsoir Safa.
Oui, bonsoir.
Safa, donc ce sera toi la première à inaugurer ce nouveau rendez-vous que propose Malik, puisque toi tu vas venir avec un livre que tu as écrit l'année dernière et que tu as publié cette année en février. Ça s'appelle « Les ponts brisés, récit d'un voyage sans retour ». Alors, peut-être qu'avant de parler du livre, on peut parler de toi, qui tu es, puisque tu as quand même un parcours singulier. Tu as que 24 ans, entre guillemets, parce que le temps passe pour d'autres personnes, mais il y en a qui sont un peu plus âgés. Et pourtant, tu as déjà un parcours riche et mouvementé qui t'a justement amené à écrire ce livre. Tu peux nous parler un petit peu de qui tu es, Safa, s'il te plaît?
Ben oui, bien sûr, mais c'est un peu difficile de parler de soi-même à chaque fois. Je suis Safa, je viens d'Afghanistan en 2022 et je fais les études de médecine aujourd'hui à Angers. J'ai commencé à écrire « Les ponts brisés » l'année dernière. D'abord, c'était pas le but de publier, mais après j'ai décidé pourquoi pas publier pour sensibiliser un peu les gens de ce qui se passe dans mon pays. Ça parle de mon parcours, un an avant les talibans, un an avec les talibans et puis un an en France. Mais quand même, ça donne l'image, ce qui se passe en Afghanistan avec les femmes aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de publier. Voilà.
Alors tu dis ça l'air de rien, mais c'est vrai que nous, ce qui se passe en Afghanistan là précisément, c'est des choses qui, vues d'ici en France, pour la plupart d'entre nous, c'est bon, c'est des actualités, c'est au JT, c'est OK, il se passe ci, il se passe ça, on suppose la souffrance que ça peut être pour les personnes qui y vivent, et toi en fait, c'est un témoignage concret là qu'on a la chance d'avoir avec nous ce soir dans Topette et que tu partages donc dans ce livre. C'est un récit qui est autobiographique du coup, puisque tu dis qu'au début tu n'avais pas l'intention de le publier, c'est que tu avais besoin de le poser sur le papier, de dire ce qui se passait, de dire comment tu te sentais à cet instant-là par rapport à tout ce que tu as vécu.
C'est une autobiographie, oui, bien sûr, mais au début, quand j'ai commencé d'écrire, c'était seulement de me libérer un petit peu. Je sentis la lourdeur des mots dans mon corps et j'ai dit pourquoi pas les écrire et les changer, les mots qui sont un petit peu lourds dans mon corps, de les changer en histoire. Et aussi de donner un histoire pour les gens ici qui vont lire mon livre. Pourquoi perdre l'espoir parfois dans la vie? Parce que la vie n'est pas, tout n'est pas rose dans notre vie. Et quand vous allez perdre votre espoir, il faut penser aux autres jeunes qui vivent au-delà de frontières et par exemple en Afghanistan, en Iran, on ne perd jamais leur espoir malgré tout ce qui se passe dans leur vie.
Oui, c'est une façon de relativiser. C'est vrai que tous les problèmes sont à géométrie variable d'une certaine façon. C'est que nous, ça y est, la voiture est en panne, par exemple. Oh là là, c'est le drame du siècle. Et en fait, on oublie que dans des pays, il y a beaucoup plus grave qui arrive. Et malgré tout, alors je connais pas précisément ton histoire. J'ai pas encore eu la chance de lire ton ouvrage. Je suis pas un très bon lecteur, donc je mets beaucoup trop de temps à lire. Et en tout cas, je compte sur toi pour nous faire, on l'a bien compris, en tout cas, une synthèse un petit peu de ce que raconte ton ouvrage. Malgré tout ce que tu évoques dedans, ce qui compte, c'est l'espoir, en fait, parce que t'en es le témoignage vivant, au-delà du livre, puisque tu continues avec cet espoir, tu te projettes pour plus tard, t'es en France aujourd'hui, t'es en première année de médecine. Je sais pas ce qui t'est arrivé précisément par le passé, mais du coup, ça va pas t'arrêter.
Oui, bien sûr, parce que pour moi aujourd'hui, l'écriture, j'osais jamais d'écrire. Peut-être j'écrivais des petites choses un petit peu pour me libérer depuis que j'étais vraiment très petite, mais maintenant, l'écriture n'est pas seulement l'art pour moi. C'est peut-être simplement une fenêtre pour moi qui s'ouvre après le point final que j'ai mis après la dernière phrase que j'écris et après ce point final, j'ai toujours un petit peu plus de lumière dans ma vie et un peu moins de l'hiver. Et c'est pour ça que je regarde à travers l'écriture maintenant, je regarde le monde autrement, avec plein d'espoir.
Est-ce que pour toi, d'une certaine façon, sans mauvais jeu de mots, c'était une manière de tourner la page par rapport à ces événements, une fois que tu avais fait ce point final?
Oui, parce que même par exemple, quand quelque chose me rend triste et j'écris, je prends le stylo, j'écris, après ça, je me sens vraiment très bien, je suis plus triste. Je regarde avec plein d'espoir et j'ai essayé ça plusieurs fois. Je savais pas au début, oui, peut-être c'est ça. C'est ça les lunettes que je change et je regarde avec les lunettes de l'espoir le monde. Mais j'ai compris bien maintenant que non, c'est vraiment l'écriture que je comprends le monde à travers l'écriture.
Alors, puisque tu l'as publié finalement, ce récit, ton témoignage, une fois que tu y as mis le point final, est-ce que tu as déjà des premiers retours et puis qu'est-ce que tu espères que ça provoque chez les personnes qui vont le lire? Est-ce que tu vois ton ouvrage comme un moyen justement de générer l'espoir chez des personnes qui des fois sont bloquées quelque part dans leur existence?
Oui, c'est ça, c'est pour donner l'espoir aux gens et aussi pour sensibiliser les gens à ce qui se passe dans mon pays, parce qu'il ne faut pas oublier les femmes de mon pays, parce que ce qui se passe là-bas, c'est tellement triste et on n'entend pas vraiment aujourd'hui parler sur les femmes afghanes aujourd'hui.
Bon, en tout cas, je ne suis vraiment pas étonné, Safa, que tu viennes avec Malik ce soir, puisque et que tu sois du coup à l'honneur pour ce premier événement, Les gens qui parlent et écrivent le 5 juillet à Trélazé. Parce que là, on est dans ce que tu cherches à partager, à promouvoir systématiquement, Malik, la culture, l'art, la poésie, mais avec cette notion de lutte aussi.
T'as raison, je suis toujours un peu sur le même créneau, en fait. Mais ouais, en fait, l'histoire, c'est que Safa, je la connaissais pas, donc on s'est rencontrés, je pense, il y a 2 mois, peut-être. Enfin, ça a été très rapide, tout ça. Je suis un peu comme toi, je pense. Il y a des gens qui m'envoient parfois des articles de presse en disant, tiens, ce serait pas mal pour toi, etc. Donc, Safa, elle était passée dans le journal, dans le Courrier de l'Ouest, je crois, ou l'Ouest France, je me souviens plus, et j'avais été pris par son histoire, en fait, et sa manière de la raconter, et de la raconter différemment aussi, parce qu'elle est jeune. Et ça m'intéressait, elle a un regard qui est jeune, et donc beaucoup d'espoir, et une autre vision aussi. Et puis dans le même temps, alors faut quand même que j'en parle. Dans le même temps, il y avait un célèbre élu municipal à Segré qui passait au tribunal pour parce que il avait croisé des Afghans dans la rue et il leur avait dit que c'était des talibans en fait, que c'était les cousins des talibans. Donc là, il a eu 4 mois de prison avec sursis. Mais en fait, juxtaposer les deux articles, je m'étais dit c'est triste en fait. Je sais que cet élu-là, il a la parole, on lui donne la parole. Peu importe ce qu'il a dit, en fait, que ce soit vrai, faux, etc., la parole, elle est là. Et je sais à quel point les mots sont importants et les mots blessent. Et je me suis dit, on peut pas laisser ces gens-là qui sèment la haine, le chaos, la division aussi, on voit où ça nous mène actuellement, on peut pas laisser ces gens-là raconter une histoire qui n'est pas la leur.
Parce que les mots blessent, mais encouragent, réconfortent aussi. Donc on
exactement.
Peut plutôt mettre ces mots-là en avant, c'est ce que propose finalement
l'événement,
en tout cas l'ouvrage de Safa.
Le but de cet événement, c'est que l'auteur, avec son livre, raconte son parcours, son histoire, et que ce soit la sienne d'histoire, en fait. Donc voilà. Et comme je disais, essayer de rassembler, d'unir et de je sais pas si on peut parler d'équilibre, hein, parce que, voilà, les divisions sont là et les blessures sont profondes dans la société française, mais essayer de rétablir un peu un équilibre, en tout cas, moi, tu sais, j'ai besoin de faire la part des choses, enfin, de faire ma part, en fait, d'apporter ma petite contribution à ce chemin-là dont tu parles, d'espoir, de penser un peu les blessures. Donc c'est un peu cette pierre-là. Et puis c'est vrai que Safa, alors elle est très très humble, mais c'est très beau quand elle le raconte, son livre. Moi, je le prends aussi comme un livre de voyage parce qu'il est en 3 parties et c'est le voyage d'une exilée. Et par rapport à l'espoir, je vais tout de suite aller sur la dernière phrase du livre. Je vais spoiler le livre. C'est la dernière phrase qui sera affichée derrière nous sur un écran géant. Car je suis une fille afghane et une fille afghane ne se rend jamais. Et cette phrase-là, en fin de livre, moi, elle m'a happé, en fait. Elle donne énormément d'espoir. Et je sais pas si tu peux parler de ça, enfin, de la condition des femmes aussi, peut-être. Parce que c'est vrai que tu parlais de l'Afghanistan, on n'en parle pas beaucoup, hein. L'oppression, elle est silencieuse. Les Américains sont partis, mais je sais pas toi, mais moi, les dernières images que j'ai de l'Afghanistan, c'est en direct à la télé, les Américains qui partent, et on voit tout le monde partir à l'aéroport pour essayer d'aller dans... On sait pas trop, en fait, on savait pas trop ce qui se passe, mais c'était le chaos. C'était il y a... En fait, ça passe vite. On a l'impression que c'était hier, mais ça passe vite. Et c'est vrai que depuis, on parle de l'Iran parce que c'est un sujet d'actualité, et puis c'est les mêmes blessures aussi qui sont là. Mais voilà, nous, on a ces images-là, mais en fait, qu'est-ce qui se passe réellement, tous ces gens-là qu'on a vus à la télé, où ils sont, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, quoi. Et ton livre, il raconte ce voyage-là, en fait, où tu parles même de la route qui va jusqu'à l'aéroport, enfin, voilà, dans les détails, et avec beaucoup de poésie. Et tu sais à quel point la poésie, c'est important pour moi. Donc, il y a beaucoup de poésie chez elle, ça m'a beaucoup surpris. Beaucoup de pudeur aussi. Et c'est vrai que, franchement, il n'y a pas une page sans espoir. On le sent quand elle le raconte. Et ça, je trouve que c'est important.
Et puis, Safa, tu es au début de ton parcours aussi. Hein. T'as vécu des choses, mais là, c'est pas l'épilogue de ton existence que tu évoques. Voilà, c'est une page que tu clôtures. T'as mis le point final, comme tu dis. Et puis maintenant, il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent. Je rebondis juste à ce que tu évoquais, Malik, par rapport au regard qu'on peut avoir en France sur des personnes qui sont exilées, immigrées, c'est ça, immigrées, je sais plus si c'est le E ou le I. Est-ce que toi, Safa, aujourd'hui, tu sens le poids de ton origine? Est-ce que tu, ou en contraste avec les conditions, notamment des femmes en Afghanistan, tu te dis quand même qu'en France, tu te sens suffisamment bien libre pour pouvoir avancer fièrement et droitement.
Oui, bien sûr, je me sens très bien ici en France. Aujourd'hui, la France, c'est comme ma maison. L'Afghanistan, c'est mon pays d'origine, mais la France, c'est ma maison aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, je pense tout le temps à mes sœurs là-bas, à mes amis, mais surtout mes 2 meilleurs amis, ils sont toujours en Afghanistan. Et Bah, j'habite ici en France, mais je dis tout le temps, on s'émigre jamais vraiment dans un pays, parce que le corps, c'est dans un pays, mais le corps, c'est toujours dans notre pays d'origine, même si parfois on dit, mais non, je suis là, je dois avancer ici. On fait nos quotidiens, on continue toujours comme ça, ce qu'on fait dans le quotidien, mais... on pense dans notre corps, c'est quelque chose nous dit tout le temps, oui, tu viens d'un autre pays, tu penses tout le temps à ton pays, même par exemple, t'es à l'extérieur de ta maison, oui, t'es avec les Français, tu parles en français, ou peu importe le pays, dans un autre pays, avec une autre langue, mais dès que tu rentres, tu parles avec ta famille dans ta langue maternelle, ça te manque un peu... Mais bon, moi je suis bien ici en France en tout cas, mais j'oublie jamais d'où je suis venu.
Avant de se quitter quand même, c'est quoi la suite? Bon, il y a des études de médecine, mais quand tu te projettes à long terme, puisque évidemment qu'une personne comme toi voit à long terme, a une ambition, a des rêves, qu'est-ce que tu t'imagines pour plus tard, après les études de médecine? Tu fais quoi? Tu restes en France? Tu voyages, enfin tu vas encore dans d'autres pays ou tu reviens en Afghanistan? Est-ce que tu espères des choses pour ton pays d'origine?
Pour le moment, oui, je vais rester en France, je vais terminer mes études ici. Après, on sait jamais, peut-être si la situation sera mieux en Afghanistan et que le Taliban part, on espère. Peut-être je vais retourner dans mon pays, mais pas pour toujours, parce que quitter l'Afghanistan était très très difficile, mais si je quitte un jour la France, ça sera encore comme quitter l'Afghanistan un jour.
C'est ton nouveau pays, oui. Du coup, d'une certaine façon.
Oui.
Donc c'est ce fameux pont brisé, voilà, quelque chose s'est brisé, mais ça se brise pour aussi rajouter des choses. On dit que l'amour se divise pas, se multiplie, on peut aimer infiniment, toujours plus, et c'est un petit peu le cas aussi avec une nation, un pays, des gens qu'on peut rencontrer. Bah, je suis très curieux, du coup, merci Safa pour ce témoignage. Je pourrais vraiment te questionner pendant des heures et des heures, mais on va être limité par le temps, malheureusement. Donc on encourage surtout les gens à découvrir ton témoignage, ton parcours de vie avec... tu redonnes le nom? Les ponts brisés?
Récit d'un voyage sans retour.
Voilà, à découvrir le 5 juillet notamment. Malik, sur les contours, les informations pratiques autour de l'événement?
Les informations pratiques, c'est entrée libre. On va échanger. Les gens qui parlent, oui, je voulais dire aussi que les gens qui parlent, donc ça va être nous, mais aussi le public. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut poser une question, réagir. Ça m'intéresse que les gens prennent possession de l'événement aussi et se l'approprient et posent leurs questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Enfin voilà, tout peut surgir à tout moment. C'est laisser un peu cette part d'imprévisible. Et non, entrée libre, échange, dédicace à la fin. On a commandé des livres auprès de la maison d'édition Le Lys Bleu. Et voilà, on espère aussi les vendre parce que c'est un petit bouquin accessible, pas cher. Hein, on fait la pub quand même. Mais voilà. Et je voulais dire aussi, dans ton livre, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché. Tu dis quelque chose comme ça. Hein, j'ai pas exactement la phrase, mais tu dis que chaque Afghan porte en lui, est en lui un livre d'histoire muette, quelque chose comme ça. Et en fait, cette histoire, j'ai envie qu'on la raconte. Justement, j'ai pas envie qu'on l'invisibilise. Et j'ai pas envie qu'elle reste muette. J'ai envie qu'on la raconte parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient intéressés par tout ça. Et puis voilà, ça fait partie de la France en fait. Pour moi, elle est, je te l'ai dit, t'es chez toi ici, t'es pas chez moi, t'es chez toi.
Oui, j'adore cette phrase.
Safa, avant de se quitter pour de bon, du coup, qu'est-ce que déjà on peut te souhaiter pour la suite?
Bon courage.
On te souhaite bon courage alors. Et si t'avais peut-être un mot, alors on a cité déjà deux phrases de l'ouvrage, que ce soit une phrase que t'as déjà écrite ou une phrase qui te vient spontanément en tête, pour générer l'espoir, là, si on est bloqué quelque part dans nos vies et qu'on, voilà, on voit plus la lumière, justement, qu'est-ce que tu dirais spontanément à ces personnes-là pour les aider un petit peu à s'en extirper?
Peut-être dans ta langue même.
Ou dans ta langue, voilà, oui, comme ça.
On va faire découvrir le persan aux auditeurs aussi.
Exactement, peut-être dans ta langue d'abord et puis pourquoi pas la traduction après aussi.
Je dois penser un peu, parce que c'est difficile de parler dans plusieurs langues en même temps. en farsi peut-être همیشه کوشش کنین حرف بزنین صحبت کنین به خاطر که صحبت کردن خودش مقاومت است و هیچ وقت خود از دست نتین به خاطر که زندگی همی است مشکلات سختی های خود داره j'ai dit essayez de raconter déjà quand vous allez perdre vos espoirs essayez de raconter parce que raconter c'est déjà résister et raconter ça a besoin de courage de raconter et si vous allez réussir de raconter c'est que vous êtes très très courageux et courageuse et j'ai oublié ce que j'ai dit j'ai dit une autre phrase Bah, j'ai dit la vie c'est comme ça. Il y a des petits problèmes. Si la vie était tout était rose dans la vie, c'était pas très intéressant la vie. Mais essayer de trouver des petits bonheurs comme moi j'ai trouvé en écrivant, j'ai trouvé mon petit bonheur.
Merci,
merci, à bientôt.